11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Dans l'intimité, sa femme l'appelle Thomas Cook car il peut être en redressement quand on s'y attend le moins. Le naufragé déçu de parentage, Jean-Philippe Vizini.
Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour à tous.
Malheureux en amour, il se sent souvent rejeté comme un recours en justice de Nicolas Sarkozy. Il se dit victime d'un complot sentimental, Jérémy Lorca.
C'est ça, bonjour à tous.
Il se méfie des légumes depuis l'incendie de Rouen et tant qu'Edouard Philippe n'aura pas dit toute la vérité, il se nourrira uniquement de burgers et de pizza. Le lanceur d'alerte des fast-foods, Mickaël, qui regarde.
Ouais, faites attention. Bonjour, bonjour.
Et celle qui, même en automne, ne sort jamais avec un parapluie parce qu'elle aimerait être touchée par le ruissellement promis par son président, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, deux auditeurs joueront avec nous à deviner qui je suis pour tenter de gagner un matelas et des oreillers Topper d'une valeur de 1500 euros. Nous recevrons ensuite la chanteuse Rose pour Kérosène, qui est à la fois son nouvel album déjà disponible et le titre de son premier roman qui paraît aujourd'hui aux éditions Ipanema. Puis notre invité jusqu'à midi sera Michel Onfray, qui sort aujourd'hui deux livres, le dictionnaire aux éditions du Cherche Midi et le crocodile d'Aristote aux éditions Albin Michel.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Jérémy Lorca, vous voulez nous parler de quelque chose qui vous préoccupe beaucoup?
Mais oui, les amis, je veux pas plomber l'ambiance, mais après les funérailles de Jacques Chirac, les discours alarmistes sur le climat, j'ai aussi décidé de vous parler d'un sujet extrêmement grave, les sites de rencontres.
Un sujet que tu connais bien, apparemment.
Ah, je le maîtrise totalement. Ah non, parce que cette semaine, on a appris que le patron de Mythique et de Tinder est soupçonné d'avoir arnaqué tous ses abonnés célibataires. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise. On a tous été victimes d'arnaques sur Tinder. Moi, le premier. Combien de fois j'ai parlé des semaines et des semaines avec un avion de chasse, et quand je suis arrivé au rendez-vous, devant moi, il y avait une vieille mobilette avec un pneu crevé. L'arnaque classique. Mais là, c'est pire, je vous explique. En fait, quand ton abonnement se termine sur un site de rencontre, il continue à te relancer et à t'envoyer des notifications en t'expliquant que tu reçois plein de messages, mais comme tu payes plus, tu peux plus les consulter, et que dedans, il y a peut-être l'amour de ta vie. Bon, c'est déjà un moyen... Un peu moyen comme technique. Mais après, il t'envoie la photo d'une bombe atomique avec ce message. Jérémy, vous lui plaisez, ne faites pas attendre votre match. Tu vois la photo, t'as pas envie de le faire attendre. Hein. Ah non, tu te vois déjà en train de faire un crédit sur 20 ans pour une maison de campagne. Résultat, tu te réabonnes dans la seconde. Il faut savoir qu'il y a 500 000 personnes qui se sont réabonnées suite à ce message. Sauf que cette bombe atomique n'existe pas, c'était un robot. Mais t'imagines...
Mais c'était quand même un homme réel, la photo.
Mais attends, t'imagines... Mais il n'existait pas. Après, oui, tu pouvais pas lui parler. T'imagines l'ascenseur émotionnel, c'est très grave de faire ça. Tu vois la photo de la femme ou de l'homme de tes rêves, toi forcément tu te vois marié, deux secondes après t'es veuf. C'est galère, comme c'est pas possible de faire des trucs pareils. Moi je peux vous assurer, je me porte partie civile au procès, hein. Alors pour me consoler, je me suis réinscrit sur un site de rencontre traditionnel. Mais quel enfer. Mais quel enfer, parce qu'au moins avec Tinder, il y avait une barrière. Il fallait tous les deux d'accord pour se parler. Mais sur les autres sites, tout le monde peut venir te parler. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand des 10 fois plus moches que nous viennent nous draguer?
Bah tu vois ce que je ressens.
Tu vois. Mais est-ce que c'est le syndrome Miss France? Tu sais, parce que peut-être que la fille qui arrive dernière au concours, elle le voit bien quand elle rencontre les autres qu'elle va pas gagner. Toi-même, à travers la télé, tu le vois qu'elle va pas gagner, t'es mal à l'aise pour elle. Mais elle est très détendue, elle s'avance sur le podium, je suis Miss Limousin et je t'emmerde. Mais ça va pas la tête. Alors bien sûr, on est tous le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un.
Jean-Philippe.
Et le physique, ça fait pas tout. Ces gens qui m'écrivent sont peut-être des gens qui ont beaucoup de charme, qui sont très intelligents, qui ont de l'humour. On joue dans la même cour, du coup, ils t'envoient « Hello ». Mais pour eux, c'est un simple « Hello », pour moi, c'est 75 euros chez le psy. Je me sens insulté et t'en as qui vont plus loin. « Hello, tu cherches un plan ?»« Non merci, j'ai un très bon sens de l'orientation. » Et ce qui me tue, les amis, c'est que je vais sur des sites de rencontres alors que je suis sûr que l'amour est à côté de moi.
Non.
N'est-ce pas?
Barre-toi, Jean-Philippe, barre-toi.
Alors je vais draguer dans la vraie vie, ça sera beaucoup mieux. Merci voilà. Beaucoup.
Alors dans cette émission, où vous êtes dans votre vie quotidienne, voici des phrases qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qui vient de se faire larguer.
Oh, ça y est, ma femme m'a quitté, mais bon, c'est la vie.
Bah c'est bien que tu le prennes comme ça, tu vois, parce qu'on en avait marre de se cacher. Oh, mais pourquoi tu pleures comme ça? Si ça peut te consoler, dis-toi qu'elle est partie avec un autre.
Non, mais elle est partie avec ma bagnole. T'inquiète, et tu vas vite retrouver quelqu'un. Regarde, Anne Romanoff, elle bah c'est pas le bon exemple, merde.
Hier, tu m'annonces que tu n'aimes plus ta femme, et aujourd'hui, tu m'annonces qu'elle est partie. Je comprends pas pourquoi t'es énervé.
Parce qu'elle est partie avec ma maîtresse.
franchement, c'est un mal pour un bien, car maintenant, je peux te le dire, elle était vraiment pas fidèle. Ah si, je te jure, on a tous couché avec elle. Mais ça va, il t'a quitté, mais t'as toute la vie devant toi pour trouver quelqu'un d'autre, hein. Mamie, t'as quel âge? 86 ans? Ah, alors t'as tout le mois d'octobre pour te...
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël qui regarde Jean-Philippe Vizini, Jérémy Lorca. Et on tentera de vous faire gagner un matelas topper en jouant notre jeu « Devinez qui je suis ».
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Jean-Philippe Vizini, Jérémy Lorca. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Jérémy?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Aujourd'hui, vous devez deviner des noms de personnalités qui sont nées au mois d'octobre. Cette semaine, Europe 1 vous offre le matelas Topper et ses deux oreillers. Un matelas 140-190 pour votre plus grand confort.
Zone lombaire renforcée avec 5 zones de couchage. Fort soutien, 1485 ressorts et matelas.
Deux aérateurs.
Ouais, on dirait, elle est enrouée.
Fabrication française, envie de confort, envie de Topper.
Oui, envie de Topper, évidemment qu'on a envie de ton père.
Mais ça va pas. Laissez mon père
ton
tranquille.
Ton père, pas ton père.
L'espace Topper, maison familiale depuis 1926, Paris 15 et Paris 12, distributeur des plus grandes marques de mobilier, d'ameublement et de literie.
Pour plus d'informations, www.topper.fr.
Anne.
Oui.
Je suis Topper.
Alors, on joue avec Morgane qui a 29 ans. Bonjour Morgane.
Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Salut.
Alors vous, vous habitez à Neuville en Ferrin dans le 59. Vous travaillez au secrétariat d'une grande marque de supermarché.
Voilà.
Et vous écoutez souvent l'émission en direct avec une collègue.
C'est ça.
Et là, vous avez gagné un concours de tequila frappé en Espagne.
C'est quoi,
c'est-à-dire, c'est vous qui avez bu le plus de tequila, c'est ça?
C'est ça.
Le concours de soifard.
Et vous êtes, Morgane, vous êtes mariée depuis 7 ans. Vous avez rencontré votre mari quand vous étiez caissière. Comment ça s'est passé?
C'est ça.
Il a acheté de la tequila tout de suite.
Il est passé à ma caisse une fois.
Ouais.
Il m'a bien regardé. Il est repassé 3 fois en tout dans la journée.
Ah, dans la même journée?
Dans la même journée.
Il achetait quoi à chaque fois?
Je sais pas, je faisais même pas attention. La première fois, c'était ses vraies courses. Après, genre, il avait oublié de l'eau et après, il avait oublié je ne sais plus quoi.
Ah oui.
Il m'a proposé d'aller boire un verre, j'ai refusé.
Oui.
Il est revenu le lendemain à ma caisse. Il m'a reproposé d'aller boire un verre et j'ai refusé. Et le troisième jour, j'ai accepté.
Et vous, vous avez un coup de foot quand vous l'avez vu ou pas du tout?
Franchement, oui. Mais je voulais pas que ce soit facile.
Ah, comme quoi, il vous a eu à l'usure un petit peu.
Non, il l'a eu à la 10e tequila.
Comment il s'appelle?
Nassim.
Nassim, et vous avez besoin d'un matelas?
Ouais.
Ouais, ça fait combien de temps que vous avez le même matelas, Morgane?
Ça doit faire 7 ans.
Ah, depuis que vous l'avez rencontré?
Depuis qu'on... Ouais, c'est ça.
Ben, faut le jeter.
Le matelas.
Le matelas, hein, pas Nassim. Oui, pas Nassim.
Ça, il faudrait le gagner.
Voilà, ouais.
Alors, on va voir. Alors, vous voulez la liste 1 et la liste 2?
La
1. La 1, et vous jouez avec qui?
Jean-Philippe.
Okay. Jean-Philippe, ce sont donc des personnalités nées au mois d'octobre. Vous êtes prête?
Je suis prête.
Attention, top chrono.
C'est le chanteur du groupe Police. Comment il s'appelle?
Le chanteur du groupe Police,
Le sélectionneur de l'équipe de France de football.
Deschamps, et c'est Sting.
Ouais. Et Sting, ouais, c'est ça. Elle est mariée avec Kanye West. Elle est mariée à Kanye West.
Patient.
Ouais. C'est elle qui chante. Tu m'oublieras, nasana, tatata. Ouais. Lui, c'est. Il veut se présenter comme maire de Paris. Il est mathématicien. Il est. Un mathématicien. Bon. Ça, c'est la fille de. La femme de Bill, l'ancien président des États-Unis. Qui s'est présenté.
Hillary Clinton.
Ouais. Lui, il a fait The Voice. Il a. Hein?
Bien. Ah bah quelque... oui, bah trois heures après, je pense que vous avez un comité d'aide derrière vous, j'ai l'impression, Morgane, non?
Non,
On n'entend rien du tout.
Vous n'êtes pas chez Chechoche ?
Calmez-vous.
Non, pas du tout. C'est juste que j'ai lu un truc sur lui il n'y a pas longtemps et le temps que ça me revienne, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose en fait.
Non, mais vous inquiétez pas, vous avez quand même 5 bonnes réponses et vous n'avez pas trouvé Cédric Villani. C'est déjà pas mal du tout, 5 bonnes réponses. Oui, mais à la fin, mais c'était trop tard. Alors, on joue maintenant avec Daniel. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Daniel, vous avez 46 ans.
Salut.
Vous habitez à Noyelles-les-Humières dans le 62 et vous êtes inséminateur bovin.
Ah, c'est un métier extraordinaire.
Ah, la vache.
Allez, moi, je ne fais pas de vanne. Je me tais.
Ah, oui, non.
Alors, vous inséminez des vaches, en fait, c'est ça ?
Voilà, voilà.
Oui, vaches laitières et vaches allaitantes.
Enfin, vous les inséminez artificiellement, hein, vous ne faites pas ça vous-même, on est d'accord.
Mais comment, déjà, comment vous recueillez le sperme des bœufs ?
Oh non !
Bah quoi ?
On est à table.
Mais non, mais c'est pour savoir.
Moi, je ne le fais pas, je suis livré, en fait.
Oui, c'est ça.
Ah, vous êtes livré.
Non, mais c'est quoi ? C'est des paillettes, quelque chose comme ça, non ?
Vous êtes livré sous quelle forme ?
Par contre,
vous faites des livraisons de sperme de bœuf.
C'est en cubi ?
Oui.
D'accord. Et comment ils font ? Vous ne demandez pas, en fait ?
Si, c'est dans des tourelleries.
Une tourellerie.
Ils prélèvent le sperme, un éjaculat, ils font 400 doses à peu près. Avec.
Un éjaculat, ils font 400 doses.
C'est quoi ? C'est une machine ?
Ils mettent le bœuf, ils le mettent devant un petit film, L'amour est dans le pré ou un truc comme ça. Et un petit film où
film d'auteur.
Non,
donc
ils
vous,
ils mettent des petits posters de la vache qui rit pour l'exciter.
C'est quand même très curieux comme métier. Donc vous recevez du sperme dans sous quelle forme ? Dans de l'azote liquide, mais quoi ? C'est dans un flacon, c'est quoi ?
Non, c'est des petites doses. On met ça dans un pistolet.
Dans un pistolet, d'accord. Et la vache, elle se laisse faire quand vous l'inséminez ?
Il faut d'abord lui offrir des fleurs.
Faut lui parler un peu, voilà. Ouais.
D'abord, on boit.
Comment
on boit un verre d'abord.
Comment vous faites pour l'inséminer ? Non, mais concrètement, parce que c'est compliqué là.
L'éleveur nous appelle pour l'inséminer.
Oui.
Et puis il la coince dans un parc.
Oh là là. Ah là, c'est moins romantique d'un coup.
Ça me rappelle ma rencontre avec ma femme.
il la coince dans un parc. Et comment ? Mais vous pouvez prendre des coups de sabot quand même, non ? Vous n'avez pas peur de.
Elle est attachée.
Oui, c'est déjà arrivé. Ouais.
Ah, c'est déjà arrivé. Ah,
oui. Mais c'est un vrai métier. Ouais, oui.
Bah, je sais que c'est un vrai métier, mais je n'en avais jamais entendu parler. Les gens ne savent pas que ça existe, ouais. Inséminateur bovin. Et grâce à ça.
C'est vrai que c'est. Oui.
Vous connaissez les inséminateurs bourrins, mais bovins. Bref, alors, liste 1, liste 2 déjà, et vous jouez avec qui ?
Avec Jérémy.
Okay. Jérémy, des personnalités d'accord. Nées au mois d'octobre, il faut dépasser 5 bonnes réponses et vous gagnez le matelas. Attention, top chrono.
Alors, elle est nageuse, c'est la sœur de Florent.
Laure Manoudou.
Oui, il a chanté « Femme, je vous aime », il est juré de The Voice.
Julien Clerc.
Oui. Elle jouait avec Leonardo DiCaprio dans Titanic.
Enchaîne.
Ok.
Passe.
Ok, c'est le patron des. Enfin, c'est le nouveau patron des Enfoirés. Il chante comme toi, je marche seul, etc.
Jean-Jacques Goldman.
Oui. Elle dit. Elle est sur M6, elle dit magnifique, ma chérie.
Christina Cordula.
Oui, c'est le président russe.
Poutine.
Oui, c'est la première femme de Jean Dujardin.
Ex aequo, Daniel et Morgane. Oui. Ah, qui va gagner ? Je vais vous essayer de vous départager. Donc, le premier qui devine. Vous êtes prêts ?
Oui.
Oui.
C'est une des actrices françaises les plus célèbres. Elle est blonde, elle jouait dans Peau d'âne. Elle avait une sœur jumelle, Françoise d'Orléac. Oui, bravo Morgane.
Bravo Morgane.
Bravo Morgane.
Un petit cri de joie, Morgane. Elle est très contente.
Oh le cri.
Europe 1 vous offre le matelas Topper et ses deux oreillers, un matelas 140-190 pour votre plus grand confort. L'espace Topper, maison familiale depuis 1926, distributeur des plus grandes marques de mobilier, d'ameublement et de literie. Plus d'informations sur www.topper.fr.
Génial, on va pouvoir se rapprocher dans le lit maintenant.
Et alors vous, Daniel, vous avez gagné deux oreillers Topper.
D'accord, merci.
Ouais, oh. Non mais Daniel, ne tombez pas en dépression quand même. Vous allez rejouer avec nous d'ici un mois comme vous étiez sur le fil et j'espère que la prochaine fois vous allez gagner. Ce sera peut-être un voyage.
Ouais.
D'accord.
Vous voulez que j'imite une vache pour que vous sentiez mieux ?
Ah oui, alors ça moi je
suis curieux. Moi je veux bien.
Ça va lui ramener le boulot.
Voilà. On sent qu'elle s'est fait inséminer.
J'ai pas osé le dire.
On vous embrasse, Morgane et Daniel. Continuez à nous écouter. Pour jouer avec nous, vous laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants avec notre première invitée, la chanteuse Rose, qui viendra nous parler de son nouvel album Kérosène et de son livre du même nom qui sort aujourd'hui aux éditions Ipanema.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, yes. Léa Londo, Jean-Philippe Bizini et notre première invitée qui fait son retour sur le devant de la scène. Elle revient de loin comme elle le chante dans son nouvel album. Elle se confie également dans son autobiographie qu'elle publie simultanément. Les deux portent le même titre, Kérosène, un titre qui mêle son nom de scène et son vrai prénom sur l'album 13 chansons, chacune correspondant à un chapitre du livre. Un album qui se lit, un livre qui s'écoute et un artiste qui s'applaudit. Rose est avec nous sur Europe 1. Bonjour Rose.
Bonjour Anne.
Alors, on vous a découvert avec cette chanson La Liste.
Oui.
Qui là, ça a marqué les esprits.
Il y a 13 ans.
Il y a 13 ans. Ouais. On va écouter un extrait.
Je t'ai tout parlé, fait. Aimé de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Soir, j'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître.
Donc là, c'était il y a 13 ans, Rose.
Ouais, exactement.
D'un coup, vous connaissez la célébrité.
Soudainement, je trouve un métier. Donc ça, c'est.
Ouais, parce qu'avant, vous avez été institutrice pendant 2 ans, après serveuse.
Beaucoup serveuse, plus qu'institutrice.
Parce que
en tout cas,
vous
oui,
dites que vous n'étiez pas une bonne institutrice.
Ah non, mais il faut une vocation, il faut vraiment.
C'est dur.
Et vous étiez bonne serveuse ou pas?
J'étais vraiment.
J'avais la vocation. Ouais.
Vous écrivez très bien, Rose. Moi, je le savais, mais en lisant les textes, c'est vraiment très joli. C'est des poèmes, enfin, à chaque fois, vos chansons. Par exemple, j'ai perdu tous les plans, les issues de ce corps. J'ai perdu tant de temps, la raison et à tort. Je suis restée devant, toujours un peu au bord.
J'aime bien cette idée de issue de ce corps. Il y a un jeu de mots qui, en même temps.
Non, mais tous vos textes sont très beaux.
C'est gentil.
Et vous avez écrit pour d'autres. Aussi Rose. Avez...
J'ai écrit pour d'autres et je continue et j'espère le faire beaucoup parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'amuse et que je fais avec une certaine facilité et c'est un plaisir de travailler en se marrant.
Là on va écouter un extrait de votre dernier album, Kérosène, Les larmes à paillettes.
Merci.
Et sur ma platine, faut que ça tourne là.
Alors Rose, vous parlez aussi dans ce livre, vous parlez de votre père qui était un personnage un peu curieux parce qu'il vous dit que le samedi matin, il jouait de la guitare torse nu et il vous faisait croire que c'est lui qui avait inventé les morceaux.
Il y a des morceaux qu'il chantait.
Tiens, regarde ce que j'ai composé ce matin. Que je t'aime.
Non, c'était Imagine, attention, parce que nous, on est high level quand même. Non, mais par exemple, il y avait une chanson de Comme un avion sans aile. Il y a une chanson, c'est Charlie Lee Couture, je crois. Et en fait, ça, celle-là, je pense qu'il a intégré qu'il l'avait composée.
Il l'a déposée. Et maintenant, c'est lui qui touche à la SACD.
Mais c'est si simple.
Du coup, vous me filez un doute, je me demande si c'est bien mon père qui a composé C'est bon pour le moral. Je me demande.
Donc là, c'est quoi vos projets, Rose? Il y a cet album que vous portez, Kérosène, le livre Kérosène.
Oui, bah,
il y a des scènes prévues.
C'est
comment ça
beaucoup.
Se passe?
Ouais, des scènes qui vont être un peu plus théâtrales que des concerts, puisqu'il y aura une mise en scène et quelque chose qui va raconter quand même l'histoire, sans trop le raconter, parce que le but c'est qu'ils achètent le livre derrière. Hein. C'est pas l'intérêt n'est pas de raconter le livre, mais qu'on comprenne un peu mieux les chansons. Moi, je pense évidemment que si on a lu le livre, le disque a une toute autre ampleur.
Mais même sans avoir lu le livre, ce disque est très beau. Écoutez, Rose.
Eh ben merci.
On va écouter encore un extrait.
Ah génial.
Je perds du temps de sang, la raison et la tort. Je suis restée devant, toujours un peu au bord. Jouer de mon sort. J'ai fui tous les gens, trop heureux ou trop fort. J'ai bu tellement d'amour à l'île de partout. Le vacarme sourd qui remplit et qui sonne. Les anges, j'ai vu les anges s'enchaîner, m'enchaîner.
Du vent qui ne fait que tourner. C'est un très bel album, Rose. Merci d'être passé nous voir. On rappelle donc cet album Kérosène, téléchargeable sur toutes les plateformes, et le livre Kérosène. Alors plein d'histoires destroy, mais après ça finit bien.
Oui, exactement. Et merci là, pour le spoiler.
Et là, vous avez trouvé l'amour, Rose ?
Eh ben oui, il semblerait.
Oh, la chance.
Ah oui, la chance.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Michel Onfray, venu parler de ces deux ouvrages qui sortent aujourd'hui, le dictionnaire au Cherche Midi et le crocodile de la Risotte aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Jérémy Lorca, Christine Béroux et notre invité qui est philosophe, auteur d'une centaine d'ouvrages abordant tous les sujets des religions à la gastronomie, des sciences à l'érotisme. Mon invité a des idées surtout et surtout des idées. Il publie simultanément aujourd'hui deux livres, Le crocodile d'Aristote, une histoire de la philosophie par la peinture et le dictionnaire composé de ses pensées, fragments, aphorismes et extraits de tous ses ouvrages depuis 1989. Michel Onfray est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Alors ça fait quoi d'être le philosophe français le plus lu, le plus traduit dans le monde ?
Bon,
c'est pas moi qui dis ça, c'est votre éditeur,
oui,
mais je pense
c'est
que
ça,
c'est vrai.
Oui. Bon, en même temps, il n'y a pas de fierté à ce genre de choses.
Non ?
Non.
Oh, bah, moi, j'aimerais bien.
Ça vous donne des ailes quand même ou vous êtes indifférent ?
Non, je ne suis pas indifférent.
Vous êtes content quand même ?
Heureux, bien sûr. Bah, oui, non, je ne vais pas bouder mon plaisir quand même.
Parce qu'on a des Français champions du monde de judo, champions du monde de foot, un Français champion du monde de philo. Être philosophe à notre époque, c'est du sport, Michel Onfray ?
Ah oui, c'est même un sport de combat, je pense.
Oui.
Parce que quand même, il y a plein d'occasions chaque matin quand on se réveille avec toutes les bêtises qu'on peut découvrir dans les journaux.
De s'énerver.
De penser, de réfléchir, d'être en colère et de faire son métier et de son travail, oui.
C'est vrai que dans ce domaine, il y a vous, il y a BHL, Raphaël Enthoven. Est-ce que vous allez un jour vous battre comme Booba et Caris ?
Il y en a d'autres, hein. Non, c'est pas mon genre de monter sur scène comme ça et de donner des pains à mon prochain.
Vous qui êtes un Normand de cœur, ça a dû vous peiner, Rouen ?
Ah bah oui, bien sûr. Mais ce qui me peine, c'est surtout le traitement médiatique. Bon, évidemment, il y a Chirac qui vole un peu la vedette, mais cette idée de... On retrouve ce qui s'est passé avec Tchernobyl, c'est-à-dire le nuage n'est pas toxique, formidable. Vous avez une usine classée Seveso qui explose en plein milieu d'une ville, mais c'est en plein milieu de Rouen. Alors je veux bien que ça ait été probablement en périphérie à une époque et qu'on ait construit, mais c'est probablement pas les bourgeois de Rouen qui habitent juste à côté. Hein. Vous avez là des immeubles et ce sont sûrement des gens extrêmement modestes. Et ça explose et que ça pète, etc. Et d'un seul coup, on se dit, non, il n'y a évidemment aucun problème. Une usine classée Seveso qui explose, ce sont des produits chimiques, ça prend feu, il y a un panache de fumée qui est terrible. Donc c'est le truc habituel du pouvoir qui nous explique qu'il ne se passe rien, circuler n'a rien à voir. L'écologie, dans ces cas-là, c'est plus un problème. On pourrait dire d'ailleurs, la maison brûle et on regarde ailleurs, là, hein, quand il s'agit de Rouen pour le coup. Parce que là, le traitement de l'information, ça a été 99,9% en Chirac, ce que je peux le concevoir, évidemment. Hein. Et puis comme ça, en passant, ah oui, au fait, il y a un incendie, on n'arrive pas à le maîtriser, on fait le nécessaire.
Vous-même, vous seriez président de la République, Michel Onfray, là.
Alors je vous assure que c'est pas prêt d'arriver.
Non mais d'accord, mais qu'est-ce que vous auriez fait face à la catastrophe de Rouen ? Vous auriez fait quoi ?
Non mais on arrête de mentir aux gens en nous expliquant que l'écologie, c'est la chose la plus essentielle, quand en fait, on s'en moque absolument.
Mais en même temps, s'ils évacuent la ville, enfin, il y aurait un mouvement de panique. Enfin, je sais
non
pas.
Mais comment peut-on laisser des usines classées Seveso dans des centres-villes comme ça ? Comment peut-on laisser des usines sans qu'il y ait des équipes de pompiers qui rendraient possible l'extinction d'un feu immédiatement ?
Maintenant, ça va être...
Non, bien sûr qu'ils vont dire à la télévision qu'ils ont tiré des leçons et que désormais, ce ne sera plus possible ceci, ce ne sera plus possible cela. C'est l'argent qui fait la loi depuis que Mitterrand s'est converti au libéralisme. Donc évidemment, les équipes de pompiers ne sont pas là. Il n'y a plus de pompiers. Les pompiers, ils sont en grève. Ils ont bien raison d'ailleurs. Parce que soit on les caillasse, soit on diminue leurs effectifs. Donc on se moque du monde simplement. C'est-à-dire quand il s'agit de faire de l'écologie urbaine, l'écologie de politique politicienne, quand il s'agit en gros de récupérer les voies d'Yannick Jadot, s'il faut parler clair, ou l'espèce de matelas de Cohn-Bendit, alors là, d'un seul coup, on fait de l'écologie, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit d'en faire réellement, et pas seulement à Paris avec des pots catalytiques, ou des bus qui roulent au colza, ou des trottinettes électriques qui polluent terriblement, puisque finalement l'électricité, elle est faite par l'énergie nucléaire. Quand il s'agit vraiment d'être des écologistes, c'est-à-dire de faire le nécessaire, alors là, il n'y a plus personne.
Bien. Voilà, je l'ai mis en colère, je savais ça arriverait. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité Michel Onfray, venu nous parler de tous ses ouvrages qui paraissent simultanément aujourd'hui, son dictionnaire aux éditions du Cherche Midi et le crocodile d'Aristote, un très bel ouvrage chez Albin Michel qui associe philosophe et œuvre de peinture. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Busigny, Jérémy Lanka, Christine Bérou et notre invité Michel Onfray veut nous présenter ses nombreux ouvrages qui sortent aujourd'hui. Le dictionnaire Cherche Midi, une compilation finalement de tous vos aphorismes. Il y a des choses assez cinglantes et saignantes. Et puis,
alors ça, c'est fait par mon ami Jean-Yves Clément. C'est pas un livre de moi, c'est un livre avec mes textes. Mais c'est mon ami Jean-Yves qui a fait ça, une anthologie. Il avait envie de ça depuis très longtemps.
Une anthologie
de vos
textes.
J'ai consenti par amitié parce que franchement, ce dictionnaire Onfray, c'est un peu culotté.
Et Michel Onfray, le crocodile d'Aristote, chez Albin Michel, des œuvres d'art associées à des pensées de philosophes. Alors, dans ce dictionnaire Michel Onfray, on peut lire des choses. Jouissance sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oui, alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », donc c'est un petit clin d'œil. Mais oui, cette idée de descendre un verre de vin comme ça en disant « j'ai bu un coup », quoi.
Ah, moi, je pense à la jouissance sexuelle, en
mais
fait.
Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, chérie.
Est-ce que vous alliez sortir un livre, savoir jouir?
C'est ça, je vais me mettre, non, à, je vais mettre à l'alcool, c'est peut-être plus facile que le sexe, en fait. C'est un bon conseil. Votre mère était femme de ménage, votre père ouvrier agricole, et vous avez dit que votre père était l'homme le plus riche du monde, car quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui ne désire pas. Vous possédez le monde quand vous ne le désirez pas.
Oui.
Vous vous sentez riche, Michel Onfray ?
Ah oui, oui, oui. Il m'a appris ça, mon père, effectivement. C'est-à-dire que le plus riche des riches, il est pauvre si effectivement... Enfin, je veux dire, on va prendre un exemple pour éviter la théorie. Par exemple, comment fait Carlos Ghosn, avec tout ce qu'il gagne par mois, pour tromper le fisc ? Et pour tromper encore le fisc, puis encore tromper le fisc, on découvre ça de plus en plus. Et à un moment donné, on se dit, ils sont malades ces gens-là. Quand vous avez l'équivalent avec un salaire mensuel, l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier pour une vie entière, et que vous trompez encore le fisc, vous vous dites, mais ces gens-là sont des malades. Et effectivement, l'homme riche, c'est celui qui ne désire pas. Mon père n'avait pas de besoin, pas d'envie, il ne voulait pas une bouteille de vin qui coûtait cher, il ne voulait pas un restaurant qui coûtait cher, il ne voulait pas un costume, il en avait un, ça lui suffisait bien, il ne voulait pas deux cravates, il en avait une, ça lui suffisait bien, et ne pas désirer...
Il y a quelque chose de curieux, Michel Onfray, chez vous, c'est qu'il y a ce père que vous adorez, en fait, et qui est constitutif de ce que vous êtes, et puis votre mère, avec qui ça se passe très mal, et que vous dites c'est très curieux de se retrouver à l'orphelinat quand on a ses deux parents.
Bah oui, oui, on est placé dans un endroit où normalement on n'a plus de parents, et c'est vos parents qui vous conduisent à l'orphelinat, c'est quand même un drôle de truc.
Et qu'est-ce que ça a fait cette enfance-là ? C'est là où...
Ah, ça fait Michel Onfray un jour chez Anne Romanoff. ça donne tout ce trajet.
Une issue merveilleuse alors.
Ça veut dire qu'il faut que je mette ma fille à l'orphelinat alors, du coup, pour qu'elle réussisse sa vie, il faut que je mette ma fille à l'orphelinat.
Ça marche pas toujours.
Okay.
Ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire ça marche pour certains, tant mieux pour ceux avec qui ça marche.
Vous avez l'amour de votre père aussi,
oui.
Qui vous a sauvé.
Oui, alors mon père à l'époque était très silencieux, il ne disait rien, il laissait faire ma mère. Donc ce sont des choses qu'on ne comprend pas forcément quand on a 10 ans. C'est plus tard qu'on comprend que mon père voulait la paix et que c'était le sens de son silence. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir ce père qui me transmettait silencieusement des valeurs, des vertus.
Et de l'amour aussi.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça comme ça.
De l'affection.
Je ne suis pas sûr non plus.
Non, de l'attachement.
De la présence.
De la présence.
C'est pas rien la présence, vous savez. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas présents. Hein. Et vous avez vraiment des gens, ils sont là et ils sont présents. C'est-à-dire le simple fait qu'ils soient à côté de vous, qu'ils entrent dans une pièce, ils sortent d'une pièce, etc. Eh bien, vous voyez vraiment la différence. La présence, ça n'est pas rien. Et mon père n'a pas beaucoup manifesté son affection. Ce n'était pas des choses qu'on faisait quand il était né en 21, mon père. Hein. Quand on avait été éduqué par des gens du 19e siècle, qu'on était taiseux, qu'on était de la campagne. Mon père, il a posé une fois sa main sur ma tête quand j'ai eu mon bac. Ah ouais. Ça a duré 3 secondes. J'ai encore le poids de cette main sur ma tête.
Et alors, vous, votre père ne parlait pas beaucoup, mais vous parlez beaucoup. Mais
bah, oui, à sa place.
Qu'est-ce que ça lui a fait d'avoir un fils qui soit si bavard ?
Il n'a jamais rien dit sur ce sujet-là.
Ah, mais il n'avait pas le temps.
Vous avez raison.
Et vous lui parliez beaucoup aussi à votre père, comme ça ?
Pas trop non plus.
Ah non ?
Non. Vous savez, je viens d'avoir 60 ans. Je vais vous faire un aveu, parce que ça date d'il y a 2 jours. J'ai rencontré quelqu'un dont la famille a été très, très élevée chez les gaullistes, chez les gaulliens, enfin, dans l'armée française, etc. Je ne veux pas donner son nom, mais c'est quelqu'un qui est aussi militaire de carrière et qui me dit « Mais j'ai beaucoup entendu parler de votre père résistant. » Et je lui dis « Non, non, mon père n'a pas été résistant. » Il me dit « Comment ça ?» Je dis « Non, mon père n'a pas été résistant. » Il me dit « Si, si, votre père a été résistant. » Eh bien, j'ai découvert il y a presque 48 heures que mon père avait fait de la résistance qu'il ne m'avait jamais dit. Wow. Jamais.
Ah ouais. Vous allez écrire un livre dessus, du coup ?
Ben, j'en sais pas assez pour ça, mais je dirais probablement...
Et comment retrouver la trace aussi ?
Parce que... ben, c'est un peu ce que je disais avec ce monsieur. Il me dit, mais moi j'ai une maison depuis 20 ans. Il est journaliste à Paris et il me dit, moi j'ai une maison depuis 20 ans dans cet endroit de la Normandie. Et il me dit, mais j'ai tout le temps entendu ça. Et il me dit, de votre père, je l'ai toujours entendu. Donc, il me dit, mais croyez ces gens qui ne vous le diront jamais, mais qui à moi me l'ont dit, et moi je vous le dis parce que je suis digne de foi, me dit-il, puisque j'ai eu de l'information venant de plusieurs personnes, à la fois des personnes qui ne se connaissaient pas. Et je me retrouve à 60 ans avec un père taiseux là-dessus qui n'a rien dit. Il n'a juste rien dit. Parce
c'est
que,
beau.
Bah, c'était tout mon père.
À une
quoi.
Époque où tout le monde se vante de n'importe
ouais,
quoi.
Ah, et c'est surtout qu'effectivement, il y a des gens qui aujourd'hui s'écrivent une histoire de résistant à bon compte. Quoi. Des gens qui avaient 2 ans et qui nous expliquent que, d'une certaine manière, quand ils ont ouigné dans le berceau, ça a empêché la commande autour de je ne sais quoi. Bon.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Michel Onfray, venu parler de ces 2 ouvrages qui sortent aujourd'hui, Le Dictionnaire au Cherche Midi et Le Crocodile de la Risotte aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Jérémy Lorca, Christine Bérou et notre invité Michel Onfray veut nous parler de 2 de ses ouvrages qui paraissent aujourd'hui. Il y en aura encore plein cette année. Il y a le Dictionnaire au Cherche Midi, une compilation de toutes vos pensées, et puis le Crocodile d'Aristote aux éditions Albin Michel. Alors Michel Onfray, vous dites, vous détestez l'expression faire son deuil. Vous dites parce que c'est le deuil qui nous fait plutôt que c'est nous qui faisons le deuil. On ne fait pas son deuil comme on fait ses commissions avec une liste de courses à faire. Le deuil nous fait parce que chaque jour vécu après le deuil est une bataille gagnée qui finit par être une victoire et une conquête.
Oui, c'est une.
C'est beau ça.
Bah, vous êtes gentil.
Des fois, quand vous n'êtes pas polémique, vous dites des choses très justes. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être polémique pour dire des choses justes.
Je dis aussi des choses justes quand elles sont polémiques. Oui, ça, j'ai perdu ma compagne d'un cancer, d'un long cancer, et il y a un moment donné où effectivement ces expressions débiles arrivent en disant maintenant il va falloir faire ton deuil. Et puis les gens ont une espèce de théorie à la con où ils vous disent il va se passer 4 mois, puis 2 mois ceci, puis 4 mois cela. Puis à un moment donné, tu vas te rebeller. Puis à un moment, j'ai dit mais arrêtez tout ça. Ça ne veut rien dire. Ça dépend qui on perd. Perdre un enfant, perdre une compagne, mais perdre un vieux père ou une vieille mère, ou perdre un grand-père ou une grand-mère, perdre quelqu'un qui fait une maladie d'Alzheimer depuis 10 ans, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a même des moments où des morts sont des soulagements. Je dis, on ne peut pas théoriser sur la mort en disant que le deuil, c'est systématiquement
comme
ça. Mais à
quoi sert la philosophie quand on a une grande douleur, alors ?
Bah ça, justement, à pouvoir faire de telle sorte qu'on puisse se dire « mais comment est-ce que je vais vivre dans cette existence où la personne que j'aimais a disparu ?» Donc, il faut construire. À ce moment-là, on voit bien qu'il y a des philosophies qui sont utiles. La philosophie stoïcienne est extrêmement intéressante. La philosophie épicurienne, l'épicurisme vous dit il faut vivre l'instant présent et arrêter de la nostalgie. Étymologiquement, nostalgie, c'est comme une algie, une douleur. Hein. C'est la douleur du passé. Et puis, vous avez parfois aussi la futurition, c'est-à-dire la crainte ou l'angoisse du futur. Et l'Épicure dit, mais si vous passez votre temps présent à vous souvenir du passé quand il a été douloureux ou à craindre l'avenir parce qu'il pourrait le devenir aussi, ça n'a pas marché. Donc, vivez dans l'instant.
Et les stoïcismes, ils disent
un peu la même chose aussi. Les stoïciens, ils disent un peu pareil sur ce sujet-là. Ils disent aussi que sur la mort, on a un pouvoir. Ils ont raison. Sur ma mort... Sur la vôtre aussi.
Hein sur... Arrêtez, ne me portez pas malheur.
Mais ça vous arrivera.
Oui, bah je vous remercie.
Le plus tard, j'adore le ne me portez pas malheur, mais vous deviez tout de même pas que je meure.
Bah, pas tout de suite, bah j'ai encore des choses à faire.
On finit l'émission déjà.
Voilà, par exemple, la première des urgences. Non, mais il y a plein d'idées simples chez les philosophes romains qui peuvent permettre d'aborder ben justement un deuil, une souffrance ou même un cancer en phase terminale. Quand vous accompagnez quelqu'un, ben évidemment, vous dites « j'ai intérêt à vivre dans l'instant. Demain, c'est demain. Et puis la mort, on verra bien. Pour l'instant, c'est la vie. »
Christine Mirou a des choses à vous dire,
oui.
Michel Onfray.
Alors, Michel Onfray, bonjour. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez écrit 6 livres. Et moi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, bien. Alors, j'ai lu les 2 derniers, figurez-vous. Le premier, Le Crocodile d'Aristote, qui est un livre qui s'adresse à des gens comme JP ou Jérémy, parce que dedans il y a des images.
Sympa.
Voilà. Dans ce livre, vous analysez 33 représentations de philosophes sous l'angle d'un petit détail qui s'avère au final ne pas en être un. Alors il y a l'encrier de Thomas d'Aquin, les gants de Machiavel, l'alliance du gars sur qui j'avais jeté mon. Ah non, pas du tout, ça c'est dans ma vie. Moi c'est mon côté hyper esthétique. Mais j'ai choisi de parler plutôt de votre dictionnaire parce qu'il y a plein de choses à dire. Vous dites des choses très belles dans ce livre, notamment sur les femmes. Vous écrivez, elles sont un degré de plus au-dessus de l'humanité. degré. Un degré de plus, voilà, c'est entre le compliment et le réchauffement climatique, on ne sait pas trop. Dans votre dictionnaire, vous nous parlez de vin. Vous dites une bouteille de vin est une lampe d'Aladin qu'il faut savoir caresser. Vous êtes sûr de votre comparaison bouteille de vin, lampe d'Aladin? Parce que moi, quand je bois, je n'ai pas le génie. Et personne ne veut jamais réaliser mes trois vœux. Donc,
vous ne savez pas caresser.
Après, vous avez le sens de la formule. Il y a des phrases choc. Je vous cite. Un sentiment esthétique suppose un ébranlement physiologique. Et j'ai envie de vous répondre. Oui, mais l'ébranlement physique nécessite la chirurgie esthétique. Le prochain livre, on va l'écrire ensemble, Michel. Et alors, Michel, après, j'ai une dernière question. Et alors là, c'est une vraie question. À chaque fois qu'on se voit, en arrivant, vous me serrez la main. Et en partant, vous me faites la bise. Et quand vous me faites la bise, je fais ça y est, avec Michel, on a passé un cap. Et après, vous revenez l'année d'après. Et là, vous me resserrez la main. Et donc, je voulais savoir, c'est quelle philosophie? Hédoniste, épicurienne ou j'ai pas la mémoire des visages?
Pragmatique.
Pragmatique, d'accord. Donc je terminerai
Dès le départ, voilà, je vous serre la main, puis quand ça s'est bien passé, je vous embrasse.
Je terminerai en vous citant, bien sûr, quand vous parlez d'humour, le rire ouvre des abîmes, il fend le monde en deux, libère une lumière à laquelle s'éclaire toute pensée progressiste digne de ce nom. Ravi de vous savoir que vous êtes également un philosophe roumanophien. C'est la certitude que vous reviendrez et que cette fois, vous me ferez la bise directement. Merci.
Merci Michel Onfray d'être passé nous voir. On rappelle vos deux livres, le dictionnaire aux éditions du Cherche Midi et le crocodile d'Aristote aux éditions Albin Michel. Merci à vous. On vous laisse en compagnie d'Elisabeth Assayag et nous on se retrouve dès demain à 11h sur Europe 1.